Cher Père Augustin Bourg, un immense merci de venir nous parler d'un sujet qui nous plaise, auquel en même temps a touché votre thèse, il est une mission des nations aussi. Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est aujourd'hui la terre de votre mission à vous au séminaire. De cette maison-ci, il est supérieur. Je me tais, quel malheur. C'est à vous, quel bonheur.
Oh là là. Alors là, j'ai jamais été présenté comme ça. Hein. Ça me touche, ça met la pression. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de réfléchir à cette question que vous avez posée, une mission des nations. Alors, effectivement, c'est une question qui était, qui fait partie de mon travail de thèse. En un mot. Donc c'est une thèse que j'ai soutenue en décembre. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, comme chrétien, comment est-ce qu'on peut comprendre la signification de l'existence des nations et l'enjeu de l'appartenance à une nation ? D'ailleurs, est-ce que ça a un enjeu pour la vie chrétienne ou pour un chrétien ou pas ? Voilà. Alors, si on a creusé un peu... l'enseignement social de l'Église, et qu'on sait que notre foi a des conséquences sociales, et que notre rapport aux politiques n'est pas indifférent à notre rapport au Christ, puisque finalement, il est toujours question de relation aux autres, à travers la médiation du politique, ou les communautés politiques, donc ça ne peut pas être indifférent à notre foi. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut éclairer cette question-là ? Pour vous dire pourquoi je me suis posé cette question, c'est que... on pourrait dire que la question qui m'habite et qui m'a conduit à cette question-là, c'est celle de l'unité. Comment, comme chrétien, on est serviteur de l'unité entre les hommes, de l'unité avec Dieu, mais concrètement de l'unité avec ceux qui nous entourent. Et donc, en tirant un peu ce fil-là, j'en suis venu à me poser la question de l'unité, pas que l'unité de l'Église, mais vous voyez, l'unité sociale. Et comme nos sociétés politiques sont des nations, j'en suis venu à me poser la question de ce regard sur les nations. Et comme éclairage, comme ressource un peu théologique, parce que c'était une thèse en théologie morale sociale, je me suis appuyé sur un des rares théologiens à avoir creusé cette question assez loin, qui est le père Gaston Fessard, c'est un jésuite français du XXe siècle, qui est né en 1897, qui est mort en 1978, comme Paul VI, si vous avez les dates de Paul VI, et qui s'est posé cette question... Bon, alors pour le situer, donc c'est un jésuite, donc c'est un fils de Saint-Ignace, il est nourri des exercices spirituels. Il a commencé à travailler, à faire de la philosophie, différents auteurs. Il a été marqué par Blondel, notamment. Et il a écrit un ouvrage où il aborde un peu la question de front en 1935. C'est un ouvrage qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, il se trouve maintenant, qui s'appelle « Pax Nostra », sous-titre « Examen de conscience internationale ». Titre un peu mystérieux, Pax Nostra, examen de conscience internationale. Et en fait, ça naît d'une réflexion avec des intellectuels chrétiens. Ils sont chez Gabriel Marcel en 1935. Ils discutent, tout le monde voit la guerre qui arrive. Pour la plupart, ils savent ce que c'est. Par exemple, le père Fessard, il était dans les tranchées en 17, donc il a participé à l'offensive du chemin des dames. Donc il a une expérience charnelle, existentielle de la guerre. Et l'Allemagne réarme, ils remettent en vigueur le service militaire, nouvelle armée de l'air, etc. Donc ils voient les choses venir. Et ils se disent, quelle est l'attitude à avoir à l'égard de ce phénomène, de cette histoire qui semble se dessiner d'un nouveau conflit. Et à l'époque, la conscience française est assez divisée entre pacifistes et nationalistes. Voilà. Et donc, il y a une discussion qui s'élabore entre eux. Et suite à la prise de parole du père Fessard, les autres l'encouragent. Ils disent, mais c'est intéressant, ce que vous avez développé, ce serait bien que vous le creusiez. Donc, il écrit un article, puis deux articles, puis ça va devenir un livre qui est publié en 1936. Donc, en fait, on pourrait dire, bah, tiens, aujourd'hui, finalement, c'est un bon point de départ. Alors, c'est pas l'Allemagne qui réarme, mais il n'empêche que le pape François parlait déjà dans Fratelli Tutti de Troisième Guerre mondiale par morceaux. Y a une multiplication des conflits, il y a un réarmement, ça c'est factuel. Et donc on peut se dire, comme chrétien, quelle est notre attitude voyez, à l'égard de l'histoire. Comment est-ce qu'on discerne la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on discerne le bien dans ce contexte-là? C'est pas simple. Hein. D'une part, on a l'impression que ça me dépasse complètement, qu'on n'y est pas pour grand-chose et que ça ne changera pas grand-chose si je fais ça ou ça. Mais en réalité, on sait que notre influence n'est pas nulle. Hein. Même si je ne suis pas chef d'État, enfin, il y en a peut-être parmi vous qui ont des responsabilités politiques, j'en sais rien, mais voilà, on a un avis, on vote, on s'exprime sur Internet, peut-être qu'on publie des choses, on discute avec des amis, et ça compte. Voilà. Et puis, c'est l'engagement de notre propre liberté devant Dieu, ça compte. Donc, voilà un petit peu le contexte. On pourrait se dire, ben, la mission des nations, c'est pas qu'une question théorique. On pourrait dire, c'est vrai, c'est un beau sujet de dissertation, mais en fait, le plus important, c'est pas de donner une réponse théorique à cette question, c'est de dire, de la réponse va dépendre, enfin, la réponse pourrait éclairer mon agir aujourd'hui. Alors, oui, alors moi, effectivement, spontanément, j'aurais parlé de vocation des nations. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une grosse différence entre vocation et mission? Bon, j'ai tourné les choses un peu dans tous les sens. Il y a l'étymologie, et puis, enfin, dans le fait de mission, il y a le fait d'être envoyé. Donc, il y a le fait d'être envoyé par quelqu'un, hein, quelque chose qu'on reçoit. Normalement, une mission, on peut se la donner, mais normalement, on est envoyé. C'est plus explicite dans la vocation, parce que là, il y a l'altérité d'un appel. Hein, il y a une parole qui m'est adressée. Mais il me semble que dans l'usage, enfin peut-être que vous penserez différemment, mais dans l'usage quotidien du terme, une mission, c'est un peu moins, comment dire, moins propre ou moins intime. Je reçois une mission, je change de mission. La vocation, ça touche quand même plus à mon être, ça m'engage davantage. Alors on dit, eh ben, non mais mon métier, c'est vraiment une vocation, ça remonte loin. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui nous saisit plus entièrement, peut-être. Bon, j'ai gardé une mission des nations. Et au début, ben, je vous parle un petit peu de ce que c'est qu'une nation. Alors ça, c'est pareil, c'est un sujet inépuisable sur le plan théorique. Dans la noble assemblée qui est devant moi, il y a certainement des historiens. Et puis, alors, je sais au moins qu'il y a une latiniste médiévale donc, qui était en face de moi pendant le dîner. Donc je parle sous contrôle, toujours. L'évolution du mot « nation » en français, vous savez que c'est un mot qui a eu plusieurs sens. Et qui vient du grec genos, et qui donc est rattaché à la question de la naissance, et même en latin, hein, natio, voilà, le spand natus, donc il y a de toute façon un lien à la naissance, et le mot d'ailleurs en français, il arrive en français au XIIe siècle, il veut dire aussi naissance. Alors c'est plus du tout le sens du mot. Hein. Et par exemple, on dit la nation du Christ, sa mort et sa résurrection, dans le Moyen-Âge. Sa naissance, voilà. De haute nation, voilà, on parle de haute naissance. Voilà, donc. C'est très rapidement... D'ailleurs, le mot est aussi employé. Je crois que le premier emploi qu'on ait dans le psautier d'Oxford, c'est pour désigner les nations au sens des nations païennes. Et de fait, c'est un des sens bibliques. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du mot nation dans l'Écriture sainte, parce que ça dépend beaucoup des livres et des époques. Mais vous savez quand même que quand Israël est appelé, hein, c'est Dieu qui dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. » Goy Gadol. Alors sachant que c'est marrant, parce qu'après, au pluriel, ça va être la façon dont les Juifs désignent les autres, les Goyim, les nations. Voilà. Donc ce terme-là, en tout cas, « nation », on va le retrouver en français, et il désigne, je vais aller un peu vite, sinon faut que j'avance un petit peu, mais donc le sens médiéval, on va dire, pour aller très vite, c'est un groupe... Donc à l'origine, hein, le groupe qui a une naissance commune, donc un groupe à qui on suppose une origine commune, pour dire qui est né ensemble ou qui a grandi ensemble. Et les deux critères essentiels, c'est l'origine géographique et la langue. Mais ça s'applique à des groupes très variés. On peut dire, il y a des exemples, je suis de la nation de Saint-Omer, d'une ville. Je suis de la nation, c'est l'équivalent d'un pays, vous voyez, d'une région vraiment très locale. On l'emploie aussi dès qu'il y a des rassemblements pour désigner les gens, pour grouper les gens par origine. À l'Université Paris, les étudiants sont groupés par nation. Voilà, la nation française, la nation picarde, la nation... Alors ça change un peu dans l'histoire. Au moment de la guerre de Cent Ans, on ne veut plus parler des Anglais, donc on dit... vous voyez, ça c'est... Voilà. Ou alors dans une ville, on dit les nations marchandes. C'est les marchands groupés par nation dans les quartiers. Voilà. Donc ça, c'est un peu le sens, mais vous voyez, il n'est pas du tout politique, et ce n'est pas du tout une appartenance exclusive. Hein. On est de différentes nations, en même temps. Après, vous avez le sens moderne. J'ai mis une date précise, parce que la définition un peu tranchée, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elle est de cette institution, c'est celle de l'Académie française, en 1694, et là, paf, on nous dit « nation », c'est la population, en gros, d'un même État. Vous voyez, on se dit, mais d'où ça sort ? Ben, en fait, il faudra faire toute l'histoire et voir qu'après, avec la guerre de Cent Ans, on a de plus en plus employé « nation » pour parler du royaume, et pas juste des villes ou des provinces. Voilà. Et que, ensuite, avec la naissance d'un État centralisé, fort, eh ben, il dit, en fait, la nation, c'est la population de l'État. Alors, le dictionnaire est très embêté, parce que, alors, si on regarde au même moment dans d'autres dictionnaires ou, de l'époque, on trouve l'ancienne définition. On se dit, d'un pays, des gens qui partagent une origine, une langue. Donc, le dictionnaire de l'Académie française, il est un peu embêté, et il met, donc, population d'un même État, souvent, enfin, en gros, qui a souvent, une même langue et... Bon, alors en fait, c'est pas du tout le cas. Évidemment, en France, au XVIIe, mais on n'a pas du tout la même langue. Voilà. Et alors, c'est marrant parce que dans la définition suivante, on voit qu'ils vont essayer de rétablir la définition, de faire des nœuds. Mais on voit déjà dans la première définition qu'il y a une tension, en fait. Alors, si ça vient de l'Académie française, c'est aussi... c'est les premiers à la définir comme ça. Bah oui, c'est une institution royale. Donc il y a aussi une volonté un peu normative. Un fait historique qui pour moi illustre le basculement, c'est, vous connaissez le collège des Quatre Nations, ça vous dit quelque chose? Ce bâtiment qui est en face de Saint-Germain-l'Auxerrois, vous voyez de quoi je parle? Est-ce qu'il y en a qui voient une coupole, deux ailes? Oui, c'est l'Institut. Mais cet Institut, ce beau bâtiment, il s'appelait le Collège des Quatre Nations. Il avait été voulu par Mazarin, sur son lit de mort, pour faire venir les jeunes de haute naissance des provinces récemment conquises. Donc il devait y avoir les Flandres, le Roussillon, l'Alsace, et puis je ne sais plus qui, Pignerol, enfin bref, des territoires récemment conquis. Et ils font venir la jeunesse à Paris. Et il l'appelle Collège des Quatre Nations. On pourrait dire, ben oui, logique. Parce qu'on vient de voir que depuis le Moyen-Âge, dans les collèges, on est groupé par nation. Sauf que, dans ce collège, dans le règlement du collège, on dit, et les jeunes ne seront pas groupés par nation. Parce que l'enjeu du collège, c'est qu'ils aient une conscience d'appartenir au royaume de France. Donc on voit un nom d'une institution qui a nation dans l'ancien sens du terme, et qui a un but clairement national au nouveau sens du terme pour faire advenir une élite nationale au sens un peu moderne, vous voyez. Donc c'est une espèce d'institution qui, dans son règlement et son nom, montre bien le basculement qui est en train de s'opérer. Après, vous avez le sens démocratique, au sens révolutionnaire. Donc la nation, c'est le corps souverain constitué par les citoyens égaux, dont l'État est l'organe de représentation. D'ailleurs, au départ, même c'est pour dire, puisque c'est ce corps de citoyens égaux, c'est le tiers-État, d'ailleurs, on va dire. La nation, c'est le tiers-État. Voilà. Mais ce sens-là, vous voyez, donc il y a, très schématiquement, la première modification du sens avec l'avènement de l'État moderne, et puis ensuite avec l'avènement de la nation moderne, au sens de ce renversement. Une forme de prise de conscience, l'État moderne a donné, en tout cas, au peuple de prendre conscience de son unité, de s'en saisir, et d'inverser un peu les choses en disant le fondement de la légitimité, c'est la nation, hein, et l'organe, et voilà, et l'État est là pour faire respecter la loi, pour objectiver cette unité, pour donner aussi à la nation qui se comprend comme un sujet historique, d'aller sur ses voies, d'être un sujet dans l'histoire, voilà, d'agir aussi à l'égard des autres nations. Donc ça, c'est un basculement du terme. Et puis, vous avez une espèce de revirement très très net dans le dernier quart du XIXe siècle. où le sens révolutionnaire va disparaître au profit d'une vision assez naturaliste de la nation, comme, vous voyez, j'ai mis une individualité collective immémoriale ayant un caractère propre. Voilà. Et on va redistribuer le sens en disant, ben en fait, le corps des citoyens, c'est le peuple, c'est pas la nation, on s'est trompé. Donc il y a des lexiques où les auteurs disent explicitement, mais jusque-là, on parlait de nation pour dire, mais en fait, non, en fait, c'est le peuple qui est l'organe politique. Et la nation, alors pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on veut fonder, alors il y a plusieurs raisons, hein, mais pour aller très vite, on veut fonder la nation sur un socle qui soit pas juste le consentement d'un tas d'individus. On dit qu'il y a quelque chose qui précède, quelque chose qui va plus loin. Notre nation française, elle remonte à nos ancêtres les Gaulois, et puis on réécrit l'histoire, etc., pour bien montrer que, logiquement, on allait arriver à la Troisième République. Voilà. Et en même temps, il faut dire que, vous savez, à ce moment-là, on est complètement fasciné par la Prusse qui nous a mis une raclée, et que donc, d'un point de vue... Enfin, l'université française de l'époque se calque et a les yeux rivés sur l'école historique allemande, l'université allemande, et de se dire, bah, peut-être que nous, on a perdu ça, et que, de même que les Allemands sont allés chercher leurs racines celtes pour dire on n'est pas des Latins, bah, nous, on va aller chercher nos racines gauloises, bah, nous aussi, on n'est pas des Latins. Enfin, voilà. Donc, c'est assez fascinant, hein, tout ce qui se passe à ce moment-là. Mais vous voyez, cette inversion... Et alors qu'il va conduire à une vision assez naturaliste de la nation. Voilà. Mais en réalité, on sait que... Alors ça va être une grande question qui demeure. Hein. Évidemment, pour faire une nation, bah, il faut des choses un peu communes au départ, sinon il ne se passe rien. Mais ensuite, on va dire le fait qu'il y ait une individualité collective qui se forme, ça, c'est précisément le fruit de la nation moderne. Puisque la nation, elle se saisit, hein, de son histoire et de ce qu'elle est, et j'allais dire, elle devient sociologiquement ce que politiquement elle met en place. Ouais. Bah, par exemple, la langue française, nous, ça nous semble... on oublie assez facilement que, bah, à cette époque-là, fin du 19e, plein de régions où le français, évidemment, est très, très peu parlé. Si vous lisez, il y a des rapports des préfets ou de la gendarmerie ou de tous les officiers de l'État qui sont dans ces régions et qui disent on comprend rien, on a besoin d'interprètes, les gens nous prennent pour une armée d'occupation, enfin c'est ouais, ça va jusque là. Voilà. Et pour vous dire aussi, j'ai plus les chiffres en tête parce que quand on fait sa thèse on a tout en tête puis on oublie tout très vite, mais il y a un moment, une classe du service militaire, donc avant la Première Guerre mondiale, je crois que c'est 1906, où, je ne sais plus, il y a un tiers des appelés qui ne savent pas que... ou un quart, on va dire, mais au moins un bon quart, qui ne sait pas que la France a perdu une guerre contre la Prusse en 70. Ah bon, non, c'est pour dire le degré de la conscience nationale. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, en fait, le mot... En fait, vous voyez, comme il y a cette polysémie par couche, ben, aujourd'hui, quand on emploie le mot « nation », il y a ces différents éléments. Par exemple, si on dit l'Organisation des Nations Unies, on pense plus à la population d'un État, parce que ce ne sont pas tous des peuples qui ont une conscience nationale. Voyez. Si on parle au Canada, comment on appelle ça, les Premières Nations, ben là, on pense plus au sens ethnique, voilà, des ethnies, des peuples. Quoi, voyez. Donc, en fait, le mot lui-même garde aujourd'hui une certaine polysémie. Et si vous ouvrez un Robert ou un Larousse et que vous allez regarder, vous verrez que c'est pas simple à démêler et que le dictionnaire lui-même est bien embêté. Je vais aller très vite à cette tension inhérente. Oui, alors, bon, après, on regarde toutes les... Dans la première partie de ma thèse, je m'intéresse pas tant aux définitions de la nation que à la façon dont les auteurs, qu'ils soient historiens, sociologues, philosophes... Les auteurs qui ont travaillé cette question, comment ils s'y sont pris, comment ils l'ont regardé, si vous voulez, quelle méthode ils ont employé, à quel genre de résultats ils ont abouti. Et en fait, très souvent, ils ont abouti à une forme de résultat un peu objectif, pour dire d'ailleurs le plus souvent ce que la nation n'est pas, mais quand il s'agit de dire ce que c'est un autre registre. Si vous prenez Renan, c'est très flagrant. C'est lié aussi à son épistémologie, mais en fait, il dit ce que n'est pas la nation. Deux premières parties de sa conférence très célèbre de 82, il emploie plein d'arguments historiques, géographiques, etc. Puis au moment où il faut dire ce que c'est, mais en fait, là, il parle avec ses tripes. D'ailleurs, il dit, c'est mon credo. Il emploie le terme. Non, c'est autre chose. Donc, en fait, on voit qu'une définition objective de la nation n'est jamais suffisante. D'ailleurs, c'est pour ça que les universitaires continuent de se disputer gentiment sur la question. Mais c'est qu'en fait, il y a bien un moment où le fait qu'une nation existe ou n'existe pas, ça tient précisément à l'engagement des libertés. Et ça, c'est très très clair dans la première moitié du XXe siècle, dans la conscience d'un Marcel Mauss, où je pensais aussi à un Saint-Exupéry, ou dans Pilote de guerre à la fin, il y a des très beaux passages où il réfléchit là, dans son avion à ce que c'est, il fait sa mission qui sert à rien pendant la campagne de France, aller photographier Arras, et puis il se dit en fait pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Donc il réfléchit à pourquoi il fait ça, et donc il pense à cette communauté nationale à laquelle il appartient, voilà, et il réfléchit à ce qu'il a fait. Et donc pour lui, l'être, et en particulier l'être social, n'est pas de l'ordre du langage, mais d'abord de l'ordre de l'action, de l'agir, et l'acte fondateur, il le dit, c'est le sacrifice. Voilà. Notre communauté est la somme de nos dons. Alors là, on est en train de toucher, commencer à voir une réalité anthropologique et au fond spirituelle, qui est la grande question de savoir ce qui fait tenir les hommes ensemble. Qu'est-ce qui fait tenir, qu'est-ce qui fait que l'humanité n'explose pas ? Même quand elle est sous pression, quand il y a une guerre civile, quand il y a un état dictatorial, quand il y a une grosse pression, vous voyez, politique et même parfois psychologique, qu'est-ce qui fait que l'humanité n'explose pas, quoi ? Voilà. Donc, sous la plume de ces auteurs-là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un renoncement, quelque chose d'individuel pour quelque chose de plus grand. Alors si on regarde les différents auteurs, on va voir comment est-ce qu'ils l'expriment, est-ce qu'ils arrivent à le formuler, à le justifier. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je ne sais pas très bien à quelle heure on a commencé, j'ai jusqu'à quand 45 ? Combien ? 5, ok. Donc, vous voyez, il y a cette tension dans cette idée de nation. Je vous ai mis un extrait de Dominique Schnapper qui parle de cette tension inhérente à la nation. Oui, alors évidemment, dans la nation moderne, dans le sens... vous voyez, qui inclut la dimension démocratique, puisque la nation moderne, c'est vraiment une idée démocratique, clairement. Donc, elle repose sur une conscience qui a été, qui s'est traduite dans des écrits politiques, la Déclaration des droits de l'homme ou autre, qui affirme, les droits du citoyen. Donc, il y a une vive conscience de la dignité humaine. Donc, il y a des principes universels. En même temps, ce qui est intéressant dans la nation, c'est, vous savez, qu'en même temps que la promulgation des droits, j'allais dire, de la personne ou de l'individu, il y a la promulgation des droits des peuples. Alors, c'est très clair aux États-Unis. Chez nous, ça l'est moins dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais la Constitution de 1791, elle dit clairement que la République française reconnaît des droits identiques aux autres peuples à se constituer en nation. Et que jamais la France ira s'ingérer dans les affaires ou bafouer les droits. Alors on rigole un peu parce qu'on sait qu'évidemment la République, elle va s'empresser de créer des départements. Mais c'est très intéressant pour comprendre. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la naissance de la nation moderne, dans le fait de se dire oui, nous sommes des citoyens qui avons des droits et en même temps nous comprenons que nous formons un tout qui nous précède d'une certaine façon mais que nous allons construire et que le principe de notre unité, il est devant nous plus que derrière nous. Ça, c'est vraiment essentiel dans l'idée de la nation. C'est une unité qu'on construit. Par exemple, on n'avait pas tous la même langue. On va avoir la même langue, on va construire une culture commune, on va construire nos habitudes, nos habitus démocratiques vont construire une communauté, voilà, quelque chose de commun. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais il y a des grands principes. Donc il y a à la fois... Vous voyez, la nation, on pourrait dire, c'est un collectif particulier, tout à fait particulier, mais qui cherche à incarner des principes universels et donc qui va se retrouver en tension. Parce que, en fait, et là, on va venir à la question de la mission, en fait, quand on construit notre nation, on le voit bien, on écrit notre histoire, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, quelle est notre place dans l'histoire de l'humanité, et on va se dire, on est exceptionnel, en fait. Parce que pourquoi? Et on va le justifier, on va l'écrire. Vous voyez, on va passer. Ça, c'est vrai. Ça, on l'atteste. Alors les historiens qui sont là le savent. Mais on passe des chroniques de l'humanité aux chroniques nationales au sens ancien. Vous voyez, et on va écrire la gesta dei per Franco. C'est le fait qu'en fait, notre peuple, c'est pas n'importe qui. On est le peuple des Francs, choisi par Dieu pour agir dans l'histoire. Vous voyez. Et même après, ça va être laïcisé, mais ça va rester. La patrie des droits de l'homme qui apporte la lumière au monde. Mais en fait, c'est le cas de toutes les nations modernes. Les États-Unis, c'est pareil, ils ont une conception messianique de leur naissance et de leur rôle, etc. La Grande-Bretagne, pareil, Nouvelle-Jérusalem, et les hymnes qui chantent quand vous écoutez. On va garder ça de côté, mais c'est très important. Parce qu'en fait, on va se trouver en se disant, ok, on est un collectif particulier, mais vu les principes qu'on a prononcés, on ne peut pas dire on est seul au monde, ou on a le droit de conquérir tout le monde. Ben non, parce qu'on a prononcé des principes, alors même si on n'arrive pas à les respecter, mais le fait qu'on n'arrive pas à les respecter, c'est très intéressant, et en fait on pourrait dire c'est le cas aujourd'hui. La Charte des Nations Unies, tout le monde la signe de bon cœur, hein, on est d'accord, hein. Mais concrètement, quand il s'agit de savoir où passe la frontière, ou où t'as le droit de creuser ou de pêcher, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Pourquoi est-ce que on est tous d'accord pour dire nous on est tous pour la justice? Mais qu'en fait, concrètement, on n'y arrive pas. En fait, c'est que, et là on voit bien que le regard objectif sur la réalité nationale, comme sur l'existence humaine, en fait, est insuffisant. Parce qu'en fait, les divisions qui déchirent les peuples, elles sont le reflet, elles ont leurs racines, en tout cas, là. C'est que nous-mêmes, on fait cette expérience. Vous voyez, alors... On va y venir, et pour l'instant, on retient cette tension interne, hein, là, je lis Dominique Schnapper, tension inhérente à la nation entre le principe à visée universelle de la citoyenneté démocratique et les singularités de chaque société nationale, entre les valeurs universelles auxquelles se réfèrent les nations démocratiques et les intérêts nationaux, inévitablement particuliers, que défendent leurs dirigeants. Alors, comment on fait, en fait Alors cette tension, elle se manifeste, j'ai cité quelques questions. D'abord, il y a la question, finalement, est-ce qu'il existe un universel? Puisque nous, on a construit des nations sur une base, sur des nations modernes, sur la base qui est la proclamation de droits universels, à la fois des personnes et des peuples, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais ça, c'est vous qui avez proclamé des droits universels. Est-ce qu'ils sont vraiment universels si ça vient de l'Europe? Oui, toute cette question, d'ailleurs, qui est aujourd'hui très actuelle, hein, de dire, mais en fait... Quelle est la qualité de cet universel? Voilà. Vous avez une autre question qui est... alors, je l'ai évoqué avec la question de... On est un peuple comme les autres, on a les mêmes droits que les autres, mais en même temps, nous, on est un peuple singulier. Et le fait que j'appartienne à ce peuple change tout. Il y a un échange fascinant, enfin, qui m'a fasciné, entre Renan et Strauss, au moment de la guerre de 70, qui sont deux philologues et philosophes rationalistes, ils ont tout pour s'entendre, ils s'admirent mutuellement. Puis au moment de la guerre franco-prussienne... Ben, ils s'écrivent. Et normalement, s'ils sont rationalistes et qu'ils ont des vues communes sur la justice, sur en fait que la raison va résoudre les conflits, si en fait on est deux personnes raisonnables, on va forcément s'entendre. Et vu qu'on partage les mêmes vues, et en fait, évidemment, ça tourne au vinaigre, l'échange. Mais donc, si vous lisez ces quelques lettres, elles sont magnifiques. Surtout celle de Renan, c'est pas parce que je suis français, mais surtout celle de Renan. Il est quand même un peu plus honnête. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, ils parlent avec leur raison, mais notre raison, elle flotte pas dans l'air. Notre raison, elle est incarnée dans un corps de chair et dans un corps social. Et donc, ben, ça conditionne pas mal notre regard sur le monde. Et si on n'en tient pas compte, on est naïf, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une morale sociale, hein. C'est parce que notre liberté flotte pas dans l'air et que quand on réfléchit à un acte moral, il faut qu'on tienne compte de notre corps physique, mais aussi de notre corps social. Bon. Alors, troisième question qui se pose, est-ce que la culture nationale, c'est une condition ou c'est le résultat de l'intégration sociale? Et là, il y a différentes options. Vous voyez? On voit bien que pour qu'une nation naisse, il faut... Évidemment, si les députés se sont retrouvés à Paris et qu'ils pouvaient parler français, c'est quand même, ça a pu faciliter les choses et la naissance de la nation. C'est évident. Et puis ça a été précédé par un État royal qui était déjà assez national en France. Vous voyez ? Donc, il y a une histoire. La nation, elle n'est pas sui generis comme ça. Néanmoins, il y a des nations qui sont nées où ils n'avaient pas tous la même langue. Voilà. Pas forcément non plus tous la même religion. Donc, plus il y a d'éléments communs, plus ça aide, mais tout ça ne suffira jamais à faire qu'une nation existe. Bon. Et donc on dit, ben, est-ce que cette culture commune, est-ce qu'elle est une condition pour que la nation existe, ou est-ce qu'elle est le fruit d'une pratique de la nation, j'allais dire, voilà, d'habitus démocratiques, ou de choses qu'on met en place pour, de façon consciente, construire notre unité. Alors il y a différentes façons de répondre. Moi j'ai mis quelques impasses du dépassement de cette tension. Alors j'en nomme plusieurs. Une première tentation pour dépasser cette tension, c'est la nation ethnique ou l'abandon de la forme démocratique. Donc, j'ai dit que la forme démocratique, elle est propre à la conception moderne de la nation. Donc il y a une tentation qui est de dire, un peu, pour le dire rapidement, un peu retour à cette conception fin 19e d'une nation naturalisée, et qui est de dire, ben non, en fait, la nation, c'est d'abord une ethnie, une culture, une langue. Donc il y a peut-être des gens en trop. Voilà. Retrouver l'unité par soustraction. Voilà. C'est pas comme ça que s'est fait l'unité française. D'accord ? Et cette tentation-là, on sait souvent où est-ce qu'elle conduit. La tentation par soustraction, c'est que si les gens veulent pas partir d'eux-mêmes, on les aide. Voilà. Donc l'abandon de la forme démocratique, en plus c'est pas neutre, ça veut dire quelque chose. Comment ? Oui, est-ce que l'unité, elle est... Il y a toujours cette tension, hein, la société politique, elle est toujours en lien avec la génération et la famille, mais son principe, la société politique, il n'est pas dans le passé comme la famille. Son principe, il est d'abord dans une unité à construire et dans un destin à construire. Donc on peut dire, bah non, finalement, on est une grande famille, et puis, voilà. Mais là, on perd beaucoup de la consistance de la nation, et en particulier de la nation démocratique. Vous avez la politique de puissance ou l'impérialisme du particulier. C'est dire, ben, cette tension, une autre façon de la résoudre, c'est de dire, ben, en fait, les droits des autres, c'est secondaire. Voilà. Les droits des autres, c'est secondaire. Donc c'est l'impérialisme du particulier. Alors, on l'a déjà vu à l'œuvre dans la colonisation. Hein, on dit, on va vous émanciper et faire de vous des nations, mais on ne les émancipe jamais, en vrai. Et on leur impose notre culture, notre façon de faire, notre administration... Bon, ben en fait, oui, c'est pour ça qu'on voit que très très vite, cette tension, elle a fait que, déjà, vous voyez, la Troisième République, elle a déjà des pratiques impérialistes qui sont pas du tout conformes à l'idéal, en tout cas, de la nation démocratique. D'ailleurs, il y a des débats, même en France, hein, à cette époque-là. Donc, il y a cette... c'est peut-être trop compliqué de tenir notre principe où on a affirmé l'égalité des droits de la personne, l'égalité des droits des peuples. Donc finalement, on n'a qu'à dire que le plus important, c'est quand même nos droits, et que les droits des peuples, c'est une variable d'ajustement. Dans ce cas-là, on est en train de saper quand même pas mal ce sur quoi on a voulu construire notre conception de l'homme et des rapports entre les peuples. Bon. Après, vous avez la démocratie sans peuple ou l'impérialisme de l'universel abstrait. Ça, vous voyez, c'est le fait de dire, ben, en fait, comme c'est trop compliqué de tenir ces choses ensemble... On dit, ben oui, la nation, elle est juste une construction, c'est juste des pratiques démocratiques, donc on va s'entendre là-dessus, et puis c'est ça qui va générer la paix. Peu importe votre culture, peu importe votre langue, peu importe votre religion, en fait, ça va marcher à tous les coups. Voilà, c'est un peu une tentation un petit peu rationaliste désincarnée, vous voyez, tentation un peu européenne aussi, hein, l'administration européenne qui, de très haut, dit, ben en fait... que vous soyez tchèque, hongrois, machin, lituanien, en français, ça, on va pouvoir appliquer le même droit. Et en fait, c'est oublier que dans cette espèce d'objet de nation, il y a toujours un peuple et un État qui vont ensemble. C'est l'État d'un peuple, c'est le droit d'un peuple. C'est vivant, vous voyez. C'est une conception de la justice qui est issue d'une histoire et qui se discute, mais c'est le droit d'un peuple. Et aujourd'hui, le droit européen, c'est le droit de qui ? Oui, est-ce qu'on le reconnaît comme notre droit ? On voit bien qu'il y a une tension. Donc en fait, c'est la tentation de l'universel abstrait, c'est de résoudre la tension en coupant la partie concrète, charnelle, incarnée, historique, et de dire, ben, en fait, on ne comprend pas que vous ne compreniez pas que notre droit puisse s'appliquer à vous aussi. Voilà. Donc ça, c'est aussi, vous voyez, différentes façons d'essayer de dépasser cette tension, mais ça ne fonctionne pas. Alors, dans cette espèce de tableau, je voudrais aussi dessiner, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc je vais aller vite, mais quand on parle de vocation et de mission des nations, le plus souvent, surtout en régime chrétien, parce qu'en régime chrétien, la notion de vocation, elle est importante, il y a deux façons traditionnelles de faire qui, à mon sens, sont toutes les deux des impasses, sont fautives. La première, c'est la conception, j'en ai déjà parlé un petit peu, exceptionnaliste ou messianique. En fait, c'est une conception qui se fonde explicitement ou implicitement sur la figure d'Israël. Parce que quand on est chrétien, et les nations modernes sont nées en régime chrétien, et c'est pas un hasard, on a pour nous le peuple. Le peuple qui a une place dans l'histoire, ben c'est Israël. Donc on va faire plein de choses. On va dire qu'on est le nouvel Israël, mais on va l'écrire. Les Francs, c'est le nouveau peuple élu. On va l'écrire au Moyen-Âge. Voilà. Et on va sacrer des rois, comme on a sacré Israël, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? D'abord, c'est théologiquement fautif. Parce que qui a constitué Israël comme peuple ? Dieu. Et il n'y a pas deux peuples comme ça dans l'histoire. Il n'y en a qu'un. Donc la situation d'Israël dans l'histoire est absolument unique. On ne peut pas dire on est le nouvel Israël. Ou alors on dit c'est l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas une société politique. Et il y a une raison, très très bonne raison pour ça. Bon, je vais y venir tout à l'heure. Donc cette vision-là, elle est théologiquement fautive. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Ben c'est puisqu'on est la nation élue, notre droit s'identifie à celui de Dieu. Mais rassurez-vous, on a une mission pour tous. On veut le bien de tous. Et s'opposer à nous, c'est s'opposer au bien de l'humanité. Donc toutes les nations qui ont développé une conception messianique de leur être dans l'histoire, ben, elles en viennent à dire le sens de l'histoire, c'est nous la règle, c'est nous le critère. Et vous avez une citation de Clémenceau à la Chambre après la victoire en 18, où il dit, ben voilà, la France autrefois soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, toujours soldat de l'idéal, notre cause c'est celle du droit et de la justice. Et on identifie la cause nationale à la cause du droit et de la justice. Mais, j'allais dire, c'est tellement imprégné que, je sais pas vous, mais moi, petit, quand j'apprenais l'histoire de France, ouais, on a gagné une bataille. Oh, on a perdu une bataille. C'est trop triste. Mais ça veut dire que, implicitement, ça c'est le on appelle ça le nationalisme méthodologique, mais ça induit une vision de l'histoire qu'on voit par notre prisme national. Donc le sens de l'histoire, c'est le succès, le développement de l'État national français. Le reste, c'est une variable d'ajustement. La Bretagne, on en parle juste quand elle arrive dans le Royaume de France. Avant, on veut qu'on s'en fiche. Alors, c'est très intéressant, avant la Bretagne, mais c'est pas grave, ça ne vous intéresse pas. Même la façon d'en parler. On dit que les provinces sont rattachées à la France, comme si de toute éternité, elles appartenaient à la France. C'est très, très drôle. Non, on les a conquises, c'est tout, on peut le dire. Rattachées à la France, oui. C'est un euphémisme. Mais en fait, ça traduit... Et tout ça, c'est né au moment de la Troisième République, alors qu'on prétendait enfin à une histoire objective. Et pas téléologique. Mais en fait, on a construit, comme elle était nationaliste, nationale et nationaliste, on a construit une histoire téléologique. Où la fin, c'est... Le critère du sens de l'histoire, c'est le succès de l'État national français. Et nous, comme on est dedans, il faut qu'on en soit conscient. Nous, on est chrétiens. C'est quoi le sens de l'histoire pour nous ? C'est l'histoire du salut. Le critère du succès du dessein de Dieu, c'est pas que la France soit là dans 50 ans, 200 ans, 300 ans. Ça fait mal de le dire, mais c'est ça. Vous voyez ? Donc, voilà, ça c'est ce que produit une conception exceptionnaliste ou messianique de la vocation nationale, et ça peut faire très mal, ça peut aller très loin. Bien. Je parle de la France parce que c'est plus facile de parler de nous-mêmes de façon un peu critique, mais on pourrait parler des autres, ça fait plus de bien, mais c'est pareil. Après, vous avez une autre façon de voir la vocation de la nation, qui est ce que j'appelle la vocation nationale rétrospective. C'est-à-dire, on regarde le passé, et on dit, qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire ? Ah ouais, donc notre vocation, c'est ça. Vous voyez ? Par exemple, de fait, on a été une des premières nations chrétiennes, un des premiers royaumes chrétiens, etc. On a une place importante dans l'histoire de l'Église, il suffit d'ouvrir le calendrier liturgique. Et donc, voilà, France, fille aînée de l'Église. Très bien, c'est un beau titre. Est-ce que c'est une vocation ? Je pose la question. Est-ce que parce qu'on a eu cette place dans l'histoire de l'Église, est-ce que ça, c'est pertinent pour comprendre ce qu'on est appelé à vivre comme peuple aujourd'hui ? Bon, déjà, ça parlera à 3% ou 4% de la population, ce qui, pour dessiner un dessin ou une perspective, est un peu limité. Mais, vous voyez, où on dit ben, l'Espagne du siècle d'or, ok, voilà, grand dessin dans l'Église, grande mission dans l'Église, est-ce que finalement, à la fin des temps, est-ce qu'elle aura vraiment servi ou pas le projet de salut du Christ ? Pas évident, hein ? Ben ouais, elle a apporté l'Évangile. Ouais, mais un peu esclavagisé les Indiens, c'était un peu un contre-témoignage. Ouais, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas ? Il y a du pour, il y a du... Mais... Donc, vous voyez, c'est pas en regardant le passé qu'on est capable de dire, ça suffit pas, en tout cas, pour dire quelle est la vocation d'un peuple. D'abord, parce que, en fait, regarder le passé, ça suffit jamais pour dire ce que je dois faire maintenant. Et que, précisément, la vocation, c'est un appel. Et qu'en plus... Alors, parfois, il y a des ouvrages, j'en cite un dans ma thèse, qui dit, mais en fait, le peuple, je sais pas, le peuple espagnol, le peuple français, il est comme ça, il a tel caractère, etc. Donc, ça veut dire qu'il va apporter ça au monde. Mais si on réfléchit un peu analogiquement, la vocation, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des qualités, vous avez... Mais en fait, Dieu, il va vous appeler, peut-être à quelque chose, avec vos qualités, ou parfois sans, ou parfois contre, vous vous direz, mais j'ai pas du tout les qualités pour, mais je t'appelle. Donc la vocation, vous voyez, elle ne peut pas se déterminer simplement en lisant l'histoire, quoi. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, enfin, ouais, je passe parce que je suis trop... Alors, ouh là là, mon Dieu. Donc, parce que maintenant, je voudrais en venir à... Pour moi, c'est pour ça que, vous voyez, étant très insatisfait sur ce que je lisais, justement, sur le regard sur les nations, la conception de ce que c'est que la vocation d'une nation, en fait... Si on réfléchit à la vocation personnelle, quand on parle de vocation dans l'Église, on parle de vocation. Quand on parle de vocation dans l'Église, on parle de quoi ? La vocation des personnes, on dit qu'on en parle comment ? C'est quoi la vocation des personnes ? Bon point. Très bon point au premier rang. Donc la vocation universelle à la sainteté, tous, on est tous faits pour la sainteté. Et sur ce fond de vocation commune se dessinent des appels particuliers à la vie consacrée, voilà, au sacerdoce, ou à servir le Christ dans le monde et à manifester sa sainteté dans le monde, etc. Mais donc il y a bien une base commune. Donc moi, ma question, c'était, finalement, si on parle de vocation des nations et que chacun y va, ouais, mais nous, on est ça, nous, on est ça, mais attendez, c'est quoi la vocation commune des nations ? Est-ce qu'il y en a une ? Ça pourrait éclairer. Après, comment chaque peuple va la vivre ? Alors, justement, le père Fessard, il réfléchit... Je vais aller un peu rapidement, mettez vos ceintures. Alors, il réfléchit justement à partir d'Israël, et parce que si les nations pensent leur devenir à partir d'Israël, en vrai, elles ont raison de le faire. Là où c'est une erreur, c'est de se prendre pour le nouvel Israël. Qu'est-ce qui est intéressant avec Israël ? Israël, il est appelé par Dieu. Donc son particularisme, il vient de la liberté divine, et c'est le seul peuple comme ça dans l'histoire. Et donc Israël a une très haute conscience de sa valeur aux yeux de Dieu. Il est le peuple que Dieu a choisi en vue du salut de tous. Waouh, c'est incroyable. Et donc Israël est conscient de son droit aux yeux de Dieu, de sa valeur aux yeux de Dieu. Israël est aussi conscient que pour accomplir sa vocation dans l'histoire, eh ben, il faut qu'il perdure dans l'histoire. Il ne faut pas qu'il se dilue. Il ne faut pas qu'il se mêle avec les païens, d'où les lois de séparation. Il faut qu'il reste Israël, qui a une identité fondée sur l'Alliance. Et si Israël est infidèle à l'Alliance, il perd son identité, il se dénature, vous voyez. Donc, Israël est un peuple particulier qui a une très vive conscience de la valeur unique de son particularisme et en même temps, qui a une très vive valeur du caractère universel de sa mission. Parce que Israël, peuple monothéiste, sait qu'il y a un créateur qui a créé tous les hommes et que Dieu veut sauver tous les hommes. Et que Israël est appelé à être lumière des nations. Ils ne savent pas très bien comment, mais ils sont appelés. Et dans l'Écriture sainte, Alors, du coup, il y a une tension en Israël. Cette même tension dont j'aimerais, on la voit, mais à la loupe, puissance 1000 en Israël, qui a raison de parler de la valeur de son particularisme pour la raison que j'ai dite, et bien plus que les autres peuples. Et ça crée ce que le professeur appelle une antinomie, c'est-à-dire une loi contradictoire en Israël, où Israël se dit, pour être moi-même, il faut que je me sépare des autres nations, avec un nationalisme très fort, hein, si on lit les Maccabées, ça rigole pas, et en même temps, une conscience de l'universalisme, du caractère universel de sa mission, et a dit, comment on fait pour tenir les deux, en fait ? Et donc même à l'époque du Christ, vous avez un nationalisme juif très fort, et en même temps, vous avez un prosélytisme juif, mais en fait, ce prosélytisme, il rencontre des difficultés, parce que même à l'époque antique, faire de quelqu'un un juif, c'est un changement de peuple, en fait. Et d'ailleurs, c'est même pas possible jusqu'au bout, vous restez un craignant Dieu, en fait. Vous êtes coincé entre deux, votre peuple d'origine et ce peuple juif qu'en fait, vous ne pouvez pas intégrer vraiment. Et en fait, c'est très violent d'être arraché à son éthos grec, d'être circoncis, d'entrer. D'ailleurs, on ne vous reconnaîtra jamais vraiment complètement comme un juif, vous voyez. Et peut-être quelques générations après. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'un arrachement. C'est pas une conversion religieuse, comme on le dirait aujourd'hui. C'est un changement de peuple. Et en fait, au fond, ça pose problème. Parce que quand Isaïe, au chapitre 2 d'Isaïe, parle de la vision, hein, c'est... Tous les peuples qui vont congé, on chante ça, Jérusalem, Jérusalem, qui tarde. Tous les peuples marcheront à ta lumière, c'est tous les peuples qui monteront à Jérusalem, c'est pas tous les peuples qui deviendront juifs. C'est pas ça la perspective eschatologique dessinée par les prophètes. C'est tous les peuples reconnaîtront Israël comme lumière des nations. Tous les peuples reconnaîtront Israël comme le peuple de qui vient le salut. Bon, donc tension très forte. Jésus arrive, il naît, il meurt, il ressuscite. Rapide, hein. Et naît l'Église. L'Église, c'est un peuple où juifs et païens sont autour de la même table. Les Grecs restent Grecs, les Juifs restent Juifs, mais ils sont tous chrétiens. Et les païens, incroyable, reconnaissent que le salut vient des Juifs. Comme dit Jésus à la Samaritaine. Et les Juifs reconnaissent que tous sont appelés, hein, c'est la découverte, tous sont appelés à la même vocation. Aussi, les nations païennes aussi. Dieu a ouvert aux païens les portes de... On entend ça en ce moment dans les Actes des Apôtres. Super actualité, c'était Calais pour... On s'est vu avec Claire pour Calais. Voilà. Donc, vous voyez... Et alors, mais c'est... Vous voyez, la puissance du signe historique que représente l'Église dans l'histoire et l'importance du fait que l'Église rassemble juifs et païens. C'est pas accessoire. C'est structurant parce qu'elle est... Elle est intrinsèquement, vous voyez, un peuple réconcilié. C'est Éphésiens 2. Hein. Le Christ est notre paix, d'où le titre Pax Nostra de Fessard. Le Christ est notre paix, hein, lui qui des deux peuples, je peux le passage, hein, a fait un seul peuple en son sang. Donc c'est lui le Christ qui est notre paix, des deux, le juif et le païen. Il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. À partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Vous voyez, j'allais dire, en travaillant cette thèse, vraiment, moi, ça m'a émerveillé de voir l'Église donnée comme signe de l'accomplissement messianique. C'est pas rien. C'était pas possible, vous voyez. Humainement, c'était pas possible que des juifs et des païens soient à la même table. On voit tous les problèmes que ça pose, le mal qu'ils ont à accepter ça. C'est un signe tangible de l'accomplissement messianique, l'Église. Bon. Maintenant, en fait, le professeur, il regarde ça et il se dit, mais en fait, est-ce qu'elle a disparu, l'antinomie d'Israël, la double loi contraire ? En fait, elle n'a pas disparu, au contraire, elle s'est répandue dans tous les cœurs. Parce que, en adhérant au Christ... En fait, je reconnais moi-même, si vous voulez, ce qu'Israël avait découvert collectivement, je le découvre personnellement. Je découvre que moi, j'ai été appelé de toute éternité, appelé à la vie divine, que j'ai un prix infini aux yeux de Dieu. Moi, comme individu, j'allais dire. L'individu acquiert un poids qu'il n'avait jamais eu jusque-là, parce que la personne entre en relation avec Dieu, directement. Parce que la personne est appelée elle-même à vivre en Dieu, à être divinisée, donc. Vous voyez, valeur infinie de la personne, Et en même temps, je découvre aussi que ces droits, du coup, je découvre mon droit aux yeux de Dieu, qui est incroyable, il a donné son fils pour moi. Donc je découvre ma valeur infinie, et en même temps, je découvre que le dessein de Dieu, l'étendue du dessein de Dieu, qui est avec moi et par moi aussi, de rassembler l'humanité en un seul corps, le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Et donc, pour le professeur, c'est là une façon un peu originale, mais de définir la personne comme fruit anthropologique de la révélation chrétienne. C'est la citation qui est en haut de la page 2. « On a dit avec raison que le message du Christ nous avait révélé à nous-mêmes comme personne, et en effet, ce terme convient parfaitement pour signifier la double qualité opposée que nous tenons de notre destinée surnaturelle. D'une part, ce terme nous sert à marquer que chacun de nous acquiert, en raison de cette destinée, un prix incommensurable avec tout le reste de la nature, si bien qu'il devient pour tous l'objet d'un souverain respect. » Le pauvre, c'est la chair du Christ, objet d'un souverain respect. Et d'autre part, dans cette valeur absolue communiquée par le Christ, notre liberté trouve la seule fin digne d'elle, réaliser entre tous une parfaite communauté. Et pour le Père Fessard, si le Christ a été la solution à l'antinomie d'Israël, et si cette antinomie, eh bien chacun de nous l'éprouve, c'est pour accueillir le même principe de solution, qui est la croix du Christ. Je me découvre personne, mais pour devenir vraiment personne comme le Christ est une personne, il faut que je passe par ce chemin. Vous voyez, le Christ, ben, évidemment, il a des droits infinis, non seulement des droits de Dieu comme Dieu et comme homme, mais en fait, vous voyez, le chemin qu'il prend, c'est un libre renoncement par amour. Voilà. Lui qui était de condition divine, hein, eh bien, ne revendiqua pas, hein, comme un droit le fait d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'abaissa, prenant notre condition, puis comme homme, reconnu homme à son aspect, il s'abaissa encore jusqu'à la croix, renonçant par amour à son droit propre, vous voyez, on dit en hébreu, à la joie, c'est très fort, hein. Donc à un bien, on pourrait dire individuel, en vue d'un bien qui est un bien commun, parce que c'est ce renoncement, il le fait par amour et en vue de notre union avec lui. Voilà. Donc, on pourrait dire, d'une certaine façon, nous, comme chrétiens, on découvre, waouh, en plus par le baptême, notre être de fils de Dieu, le droit qu'on a, entre guillemets, vous voyez, au regard de Dieu, et en même temps on découvre ce que c'est que d'être fils ou fille de Dieu, c'est agir comme le Christ, ah oui, d'accord, voilà. Donc ça consiste à entrer dans ce mouvement, qui est le mouvement de la charité en fait, par lequel je renonce, et tous les termes sont importants, je renonce librement et par amour à un bien ou un droit individuel en vue d'un bien plus grand qui m'unit aux autres, d'un bien qui est proprement commun. Ça c'est le mouvement de la charité, et c'est ce mouvement-là qui unit vraiment les hommes. Et quand le Christ y entre, il nous réconcilie, on l'a lu dans Éphésiens, il nous réconcilie avec Dieu, parce que c'est le mouvement aussi qu'il fait à l'égard de l'humanité, hein. Il nous réconcilie avec Dieu, il nous réconcilie, il réconcilie notre cœur divisé par le péché, et il nous réconcilie avec les autres. C'est ce mouvement-là. Alors, où est-ce qu'on le vit, ce mouvement ? Ouais, j'en ai dit, hein, notre liberté ne flotte pas dans l'air, on est dans une famille, ben, c'est peut-être la première société où on découvre qu'on est une personne, qu'on a des droits, qu'on n'est pas traité n'importe comment, les autres ont des... Voilà, nos parents, on a des droits, on a une place dans cette famille. Et en même temps, on découvre aussi la consistance de ce renoncement, ben, des parents qui se livrent pour le bien commun de la famille, par amour. Voyez, et c'est ça qui fait tenir ou qui fait grandir la communion familiale. Donc je vais très très vite parce que le temps est écoulé, mais eh ben, pour le Père Fessard, en développant une analogie assez fondée que je n'ai pas le temps de déployer, mais eh ben, il dit en fait, la société familiale, elle ne suffit pas. D'ailleurs, ça, c'est tout à fait dans l'anthropologie chrétienne, hein, la consistance propre de la société politique. Alors là, on pourrait revenir aux anciens, hein, à Aristote, mais l'homme est un être rationnel, donc sociable, parce qu'il a cette capacité à chercher ce qui est juste, et puisque c'est quelque chose qui transcende, qui transcende les particularismes, on peut chercher ensemble ce qui est juste, et c'est ça qui va faire qu'on crée une cité, pas juste pour... parce que c'est utile, mais parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir trouver ce qui est juste pour tous. Donc pour le Père Fessard, vous voyez, c'est ce chemin-là que nous sommes appelés à vivre à travers, on pourrait dire, notre personnalité familiale et nationale. Et alors il se pose la question, et pour lui, en fait, les nations elles-mêmes, les groupes elles-mêmes sont appelés à le vivre de façon collective. Et pour lui, c'est ça, on pourrait dire, en tout cas dans lequel moi je reconnais ce qui est la vocation commune des nations. Alors ça va très très loin, ça a des conséquences un peu abyssales, vertigineuses, que le professeur développe, en disant, mais est-ce que ça existe un renoncement collectif ? En quoi ça pourrait consister ? Mais est-ce qu'on pourrait dire, puisque l'analogie, mais là, ce ne serait pas par amour, collectivement, on ne fait pas ça par amour, ouais, oui, mais on pourrait dire on fait ça en vue d'un bien commun. Ça, c'est la vertu de solidarité, selon Jean-Paul II, hein, qui définit la solidarité comme une vertu. Disposition ferme et persévérante à travailler pour le bien commun, ben ça, c'est la charité en acte, hein, où on pourrait prendre Benoît XVI, hein, dans Caritas in Veritate, cette voie, le travail pour le bien commun, qui est la voie institutionnelle politique de la charité. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que le Père Fessard en vient à dégager. Vous voyez, cette mission des nations, donc on comprend que c'est une mission à la fois à l'égard de ses membres, parce que c'est dans cette communauté politique, enfin, familiale bien sûr, mais aussi politique, que chacun de nous se découvre sujet de droit et appelé à engager sa liberté au service d'une communion qu'il dépasse, et vocation à l'égard des autres nations, comme étant appelé à vivre à l'égard des autres un renoncement de la même nature. Non, j'ai explosé le timing, je m'arrête tout de suite. Voilà. Mais j'ai été un peu confus, donc je...
Non, c'est moi qui suis confus, mais j'étais un peu interpellée par...
Ouais.
Je pensais beaucoup à Jeanne d'Arc pendant
que vous parliez. Oui, tout à fait.
Parce que je trouve que c'est un exemple paradigmatique, c'est un peu l'impression que Dieu intervient dans l'histoire de manière extrêmement directe.
Oui, tout à fait.
Pour, en l'occurrence, quand même, privilégier une nation sur une autre.
Oui.
Et on a le sentiment que là, il est vraiment question... Alors... Non seulement d'avoir conscience de soi, un peu quand même tout de même comme une sorte de nouvelle Jérusalem qui a voilà, quelque chose à apporter et qui doit subsister à cause de ça. Mais en plus, voilà, on a l'impression que Dieu intervient quand même de manière très directe dans l'histoire. Alors même que, bon, voilà, on sait que Jérusalem, voilà, le Christ a accompli son sacrifice et le monde est dans les temps qui sont les derniers. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ça sachant que. Alors, c'est bien greffé à une autre chose que vous dites, enfin, ce que vous disiez sur la notion de culture, mais ce que je trouve aussi toujours très impressionnant, c'est de voir tous les saints que les pays ont pu donner au monde et constater à quel point, en fait, ils sont très pétris du fait qu'ils ont pu être français, italiens, etc.
Ouais.
Et donc, il y a peut-être quand même un intérêt à ce que les nations subsistent en tant que telles, j'ai envie de dire simplement pour apporter le droit à la justice, mais en fait pour s'apporter aussi elles-mêmes parce qu'elles ont une manière de. Diffuser le mystère en fait, dans contracter une partie qui leur est propre et qui de ce point de vue peut avoir un intérêt quand même pour...
Tout à fait, merci beaucoup, ça me permet de préciser un point, je commence par la deuxième question qui me permet de préciser un point puis j'en viendrai à la première. Dans ce que j'ai dit, vous voyez pour le Père Fessard, la consistance de la nation et notamment le fait que ce soit de fait un peuple particulier et qui a donc une tradition, une culture particulière, c'est très important, c'est sa chair, c'est ce qui fait qu'il est qui il est, qui elle est, cette nation. Donc il ne s'agit pas du tout de disparaître, c'est pas du tout le but. Ce qui est visé, c'est ce qu'il appelle, et d'ailleurs ce que le magistère emploie beaucoup, hein, le magistère parle de l'humanité comme d'une famille de nations. Donc en fait, c'est une perspective, justement, j'allais dire, une forme d'unité de nature personnelle. Vous voyez. Donc il ne s'agit pas du tout de nier la richesse propre d'une culture. Pas du tout, non. Mais une culture, c'est vivant. Mais il ne s'agit pas de nier la richesse propre d'une culture. Et chaque nation est appelée, à mon sens, à vivre cela, d'abord avec la conscience qu'elle en a, et puis surtout avec sa culture, et avec son histoire, et avec ses richesses, ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est la première chose. Donc Ça, ça.
Du coup, ça suppose qu'il y a un acte de foi à faire dans le passé. Parce que vous avez dit, en fait, le passé ne suffit jamais à déterminer ce qu'est la vocation.
Oui, tout à fait.
Ce qui est, ouais. Enfin, le domaine de rendu personnel, ouais. Je pense que c'est très vrai, et ouais. On s'en rend bien compte. Mais il y a quand même une forme de détermination qui...
Évidemment, parce que ce que vous êtes, c'est le fruit du passé. Donc ce que nous sommes personnellement et collectivement, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit du passé. Donc c'est une histoire qui est belle, qui a ses ombres et ses lumières, et notre histoire nationale, comme nos histoires familiales, elles ont leur ombre et leur lumière. Mais cette histoire, il faut l'accueillir. Sans ça, on ne peut pas accepter qui on est, se projeter dans le futur et voir ce qu'on est appelé à être. Donc bien sûr, hein, mais ça, quand je dis que ça ne suffit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le passé ou le comprendre pour comprendre qui je suis, l'accueillir, etc. Donc je dis que c'est insuffisant. D'ailleurs, on voit bien, enfin, faire de l'histoire, ça suffira jamais à dire ce qu'il faut faire maintenant. Ça donne des clés, ça donne de l'intelligence, ça permet de comprendre des constantes, ou j'en sais rien, mais en fait, ce que Dieu me demande maintenant, voilà. Mais, donc là, voilà, la consistance culturelle, la consistance du particularisme des nations est vraiment importante. Ensuite, sur la question de Jeanne d'Arc, alors, il ne me semble pas que Jeanne d'Arc parle de Nouvelle Jérusalem, et peut-être qu'on lui fait dire beaucoup plus qu'elle ne dit elle-même. Jeanne d'Arc, elle veut chasser l'envahisseur. Voilà. Et d'ailleurs, quand on lui demande si Dieu aime les Anglais, aime pas les Anglais, elle dit, ben si, il les aime chez eux, mais il les aime. Donc, voilà. Alors, moi, je suis pas à la place de Dieu, mais vous voyez que cet événement de Jeanne d'Arc, il nous montre, je pense, la sollicitude de Dieu pour un peuple. Voilà. Mais, en tout cas, je peux pas tirer de ça une mission spécifique de la France dans l'histoire. Je peux dire que certainement que dans la providence divine l'a voulu et que peut-être que notre peuple avait justement quelque chose à apporter au monde. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Je ne sais pas. Parce que peut-être que c'est en vue de quelque chose. Hein, Dieu nous sauve régulièrement en vue de missions qu'on n'accomplit pas toujours. Donc ce qu'on fait du don de Dieu, je ne sais pas. Donc voilà. Peut-être que...
Moi, je suis dernièrement allé voir Judith Chenla qui jouait le procès de Jeanne d'Arc, là, pour le reprendre. En fait, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'une forme de libération est donnée à travers elle, mais sa vie à elle, elle est conformée à la passion.
Oui. Oui, la passion du Christ, oui.
Donc, c'est même un peu vexant, parce que la France vis-à-vis de Jeanne d'Arc lui doit beaucoup, et en même temps, elle n'est pas hyper exemplaire dans sa manière de la traiter, si je puis dire. C'est-à-dire que elle joue un rôle de ce point de vue-là et
oui, c'est vrai. Ouais,
ouais. Dépasse un peu quelque chose de... Enfin, je m'en suis un peu plus rendu compte. En... Ça vaut le coup de lire son procès. Hein, ouais. C'est très impressionnant.
Ouais.
Parce que c'est très, très juste. En fait,
les réponses qu'elle donne sont incroyables.
Mais donc, le plus frappant pour moi, c'est la forme christique ouais. Que ça vit.
Mais il faudrait vérifier, je pense que c'est un exercice maison. Non, mais vous pouvez vérifier dans le procès de Jeanne d'Arc, il ne me semble pas, pour avoir rapidement regardé, mais il ne me semble pas qu'elle a un regard exceptionnaliste ou messianique sur son propre peuple, sa propre nation. C'est très intéressant, ça.
Ouais. Merci beaucoup, c'était super. Dans l'enracinement, Simone Veil essaye de dégager ce qui est un vrai patriotisme.
Ouais.
Elle finit par dégager quelque sorte de patriotisme de la compassion, analogue à celui du Christ en Luc 21, Jérusalem, Jérusalem, combien ai-je voulu rassembler tes enfants. Je vois que c'est pas, ça ne pose pas de contradiction avec ce que vous avez dit, au contraire, mais j'ai du mal à faire les liens vraiment, donc comment vous ferez les liens entre Simone Veil et ce que vous avez dit?
Je connais pas suffisamment ce patriotisme de... c'est le mot patriotisme qu'elle emploie
Oui, enfin, c'est surtout en fait la compassion. Oui, c'est l'idée du patriotisme de la compassion.
De la compassion, ouais. Donc, est-ce que c'est compassion à l'égard du peuple, c'est ça ou...
En fait, compassion à l'égard de la nation, à la fois dans ses malheurs,
ouais.
Même dans son bonheur, comme
ouais.
La compassion pour un amour heureux,
ouais.
Qui est aussi fragile,
ouais, ouais.
Et qui du coup appelle cette compassion. Parce que, enfin, en fait, c'est ce que dit Simone Veil, il y a une sorte de... Par rapport à ce que vous avez dit, dans ce que vous avez dit, c'est moi, en me lançant dans la nation, donc en m'insérant dans la nation,
ouais.
Là où Simone Veil, en quelque sorte, le regard de compassion, c'est un regard un peu désintéressé,
un peu détaché,
qui
ouais.
Se détache.
Ouais. Ouais. C'est vrai. En fait, il y a quelque chose de vraiment très important chez le Père Fessard, mais en fait, donc c'était un très très grand ami de Lubac. Ils ont fait leurs études ensemble, ils ont une correspondance de plus de 1000 pages, deux très très grands amis. Chez les deux, on trouve cette vive conscience que, vous voyez, la société politique, c'est pas le cadre de ma vie chrétienne. Et nous, on est marqués par le libéralisme, on peut avoir ça en tête, quoi. Non, c'est la société politique, ce sont des relations dans lesquelles se joue mon salut, en fait. Parce que la charité, elle se joue très concrètement dans ces relations-là. Ce sont mes prochains. Donc, c'est pas le cadre, la société politique, c'est pas juste le cadre de ma vie chrétienne. Voilà, je réponds à ma vocation chrétienne à travers les relations familiales et professionnelles et politiques, etc., avec les gens qui m'entourent. Donc, c'est là le lieu de ma réponse au Christ. Ce qui est profondément chrétien, hein, ce lien entre le temporel et le spirituel. Voilà. Donc, ça c'est. Ensuite, pour le Père Fessard, par rapport à la compassion, là où. En tout cas, il y a à la fois un regard, oui, certainement, de. Donc voilà, c'est pour dire qu'il a bien conscience qu'on est dedans, on ne surplombe pas, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est une famille de nations et que l'humanité n'est pas appelée à être un bloc, parce que aucun d'entre nous ne surplombe le monde et l'histoire. Ça, c'est très important. Ça, c'est la faute rationaliste, quoi. Si je trouve ces renoncements ne mettent pas d'accord, ben c'est parce qu'il n'y en a pas un, ni l'un ni l'autre ne surplombe le monde et l'histoire. Et le rationaliste, quand il veut faire l'unité, le rationalisme est très fort pour décomposer, diviser, etc. Mais unir, il en est incapable. Incapable. Parce que concrètement, on va dire, on prend deux rationalistes, mais concrètement, là, elle passe où la frontière ? Concrètement, elle, vous voyez, c'est Renan et Strauss, c'est ça en fait. Mais parce que notre raison ne flotte pas dans l'air. Donc, ça, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça que pour le Père Fessard, c'est. Voilà, on est inséré dans un corps social. Bon, et c'est là que se joue notre réponse à l'appel du Christ. Alors, l'autre chose, c'est que c'est un regard de compassion aussi, j'allais dire, pour essayer de reprendre ce vocabulaire, mais sur l'humanité. Pour essayer de reprendre vraiment les termes d'un débat très très actuel, hein, avec les sorties du vice-président américain et des questions aussi très actuelles sur la préférence nationale, des choses comme ça. Je compte bien écrire un article là-dessus cet été, mais parce que c'est très actuel. Le Père Fessard, il parle de prédilection pour la nation, mais c'est très différent. Je vous ai mis quelques citations que vous pourrez lire à la fin, mais c'est. Vous voyez, à partir du moment où vous avez reconnu que c'est inscrit dans la finalité de votre nation, ce service et cette mission à l'égard des autres, si c'est vraiment inscrit comme finalité, votre amour de la nation, il ne pourra jamais être un égoïsme collectif. Et en fait, c'est là qu'il y a quelque chose d'important. Et ce n'est pas une préférence, parce que la préférence, ce serait de l'ordre. La préférence, c'est le sommet de l'amour. La prédilection, c'est le premier pas. C'est comme un apprentissage, vous voyez, en vue d'un amour plus grand qui est de l'ordre de la finalité. Donc c'est assez différent. Et puis, le discours de Vente, vous voyez, c'est de dire, ben voilà, on s'occupe d'abord des siens, et puis si on a le temps et qu'il nous reste un peu de sous, on s'occupera des autres. Non, c'est que s'occuper des siens, par exemple, même vouloir que sa famille, que ses enfants grandissent, c'est leur apprendre que leur vocation, c'est pas de s'occuper d'eux. C'est faire grandir des libertés qui soient capables de se donner un jour. Donc ça oriente toute la façon de s'occuper des siens. Je peux pas faire grandir ma famille et m'occuper des miens sans leur apprendre à accueillir le pauvre, à s'intéresser aux autres, etc. Parce qu'en fait, je m'occupe pas vraiment d'eux à ce moment-là. Je les fais pas grandir dans le sens, vous voyez, de leur vocation réelle. Donc ce regard sur la vocation des nations, ça aide aussi à remettre dans l'axe un petit peu. Ça veut pas dire que ça répond concrètement à ce qu'il faut faire maintenant, mais voilà, ça à remettre en perspective ce que c'est qu'un amour, je pense, chrétien de sa nation.
Est-ce que le PFSA précise comment fonctionne un peu concrètement et historiquement vis-à-vis des autres nations le passage par la croix ?
Ouais.
La dimension sacrificielle, en fait, je vois que dans les objets que vous donnez, il est question quand même de soumission pour l'élévation de la rédemption de tous.
Ah ouais, ça va très loin, ça fait peur. Hein. Ouais.
Voilà. Ouais. En fait, est-ce qu'il donne des exemples ? Ouais.
Alors, plus important, je vais revenir sur la question des exemples, mais plus important que les exemples, ce qu'il montre, c'est le chemin, c'est-à-dire, il ne se fait pas n'importe comment, ce chemin-là. Le chemin de la charité chrétienne, d'abord, Benoît XVI le dit très bien et très proprement, comme il l'a l'habitude dans Caritas in Veritate, la charité est inséparable de la justice. Hein, donc, et y a une mais les deux, c'est-à-dire que je ne peux pas, comme chrétien, dire ce qui est juste sans aimer et sans être éclairé par la justice et la charité divine. Et je ne peux pas aimer pour de vrai sans commencer par être juste. La charité suppose la justice, en même temps, elle la déploie, elle l'élève, elle l'agrandit, parce que la justice du royaume, c'est précisément la charité. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, le père Fessard s'attache beaucoup à décrire ce chemin, de les conditions, enfin, ce que c'est qu'un renoncement qui soit vraiment par amour, en vue d'un bien commun, c'est pas n'importe comment. Par exemple, si on prend un renoncement collectif, mon premier devoir, c'est de respecter les droits de chacun, de les protéger, etc. Et un renoncement collectif, contrairement à un renoncement individuel, ça suppose que les autres soient d'accord, quoi. Moi, je peux donner mon argent. Si moi, le père Maxime, on a l'argent de la quête, on ne peut pas le donner à un pauvre, hein, ce n'est pas le nôtre. Et je ne suis pas un maître des biens et des droits des autres. Tendre l'autre joue. Je peux répondre par amour à une agression, mais si je suis policier, mon devoir, c'est de protéger les autres, le droit des autres et de l'agression du fort. Voilà. Donc, c'est ça le plus important. Et le Christ lui-même ne donne pas sa vie n'importe quand, n'importe comment. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et il la donne quand le Père l'y invite, quand c'est l'heure. Parce qu'avant, on veut le tuer, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il sort du temple en se cachant, il se cache Jésus, pour pas mourir. Pour dire, oh, quoi, Jésus, il se cache pour pas mourir. Mais c'est pas l'heure. Donc, vous voyez, le martyr n'a rien d'automatique, le renoncement charitable n'a rien d'automatique. Voilà. Alors, quelle forme ça pourrait avoir? Voilà. Je pense que, très concrètement, ça pourrait d'abord avoir, je le disais un peu en amont, mais le respect des droits des autres. Voilà. Par exemple, renoncer à la vengeance. Choisir la médiation du droit, et du droit international en particulier. Ça peut être des choses comme ça, très simple. Après, ça peut aussi aller à un renoncement qui va, annuler la dette d'un pays. Alors on pourrait dire, ouais, mais ça peut être que de l'intérêt, peut-être, mais pas forcément. L'intention est mêlée, il faudrait regarder. Mais ça pourrait être ça. Collectivement, on dit, on remet la dette de tel pays. C'est collectivement, ça nous fait mal à tous, mais en fait, c'est en vue d'un bien plus grand. Voilà. Ça pourrait être dans l'exploitation des ressources. Il y a un sociologue qui avait une très très haute idée, je pense bien plus chrétienne que beaucoup de ses contemporains, de ce que pourraient être ou ce que devraient être les nations, c'est Marcel Mauss. Si vous lisez son essai de 1921 qui a été publié en 2014, là, qui s'appelle La Nation, je vous ai mis un extrait, vous pourrez lire, hein. Il met « Les nations finiront par apparaître réellement ce qu'elles sont réellement, des groupes considérables d'hommes vivant en communauté sur un sol commun, ne tentant ni de s'approprier les territoires d'autres groupes humains, ni de s'emparer indûment de privilèges chez eux, ni de détenir indûment et de faire payer trop cher des matières ou des choses indispensables au reste de l'humanité, aux industries et aux arts des autres nations. » Vous vous rendez compte le degré de renoncement, la vision qu'il a? Incroyable. Et d'ailleurs, au détour d'une page, il dit on n'a pas encore une idée assez haute de ce que pourraient être les nations et de ce qu'est la charité chrétienne. Oui, il lâche ça. Voilà. Donc, donc ça pourrait être de cet ordre-là, quoi, de dire en fait, j'ai en exclusivité, mettons, une matière première utile à tous. Voilà, au lieu de faire raquer tout le monde, je pourrais choisir de, surtout pour les pays qui ont moins de moyens, qui en ont le plus besoin, de leur donner accès à ces ressources, ça pourrait aller très loin. Mais ça commence déjà par renoncer à la vengeance, renoncer à la diffamation, respecter le droit des autres, respecter les médiations du droit, parce que les médiations du droit, quand c'est dans mon sens, le droit international, puis quand ça ne m'arrange pas, voilà, c'est là que ça va se jouer. Et ça, c'est déjà de l'ordre de la charité, hein, du service du bien commun. Donc ça peut prendre diverses formes. Évidemment, pour répondre à la question.
C'était la dernière.